Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans les incorrectibles sur Sud Radio. Comme chaque dimanche, nous sommes en direct sur Sud Radio, mais aussi en live vidéo depuis la page officielle Sud Radio sur Facebook. Alors dans un instant, comme d'habitude, je serai en tête à tête, à distance, avec notre invité incorrectible de la semaine pour débriefer de l'actualité, comme toujours, vous le savez, essentiellement marquée par cette pandémie du Covid-19 et une gestion par l'exécutif qui suscite chaque semaine toujours plus de questions et encore souvent des polémiques. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est parti pour les incorrectibles.
Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo.
Alors, en ce 48e jour, et oui, déjà de confinement, notre invité est médecin généraliste. Il exerce à Fronton, en Haute-Garonne. Il est également président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Il est très présent dans les médias et sur les réseaux sociaux où il dénonce les politiques publiques en matière de santé. Il est aujourd'hui avec nous pendant, je le disais, une heure pour nous apporter son éclairage très attendu sur cette crise du coronavirus qui n'a malheureusement toujours pas dit son dernier mot. Docteur Jérôme Marty, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, une actualité de la semaine, bien sûr, toujours dominée par ce Covid-19 et puis par, bien sûr, pour commencer, le discours d'Édouard Philippe qui a été prononcé mardi dernier à l'Assemblée nationale. Et il a détaillé son plan de déconfinement qu'il a présenté pendant une heure devant les députés. Alors, protéger, tester, isoler, voici les trois maîtres mots de ce plan qui a gardé la date du 11 mai. Annoncé par Emmanuel Macron et dont les grandes lignes sont tout d'abord le port du masque obligatoire dans les transports publics, dont la capacité sera réduite pour respecter les distances de sécurité. En deuxième point, réouverture très progressive des écoles maternelles et élémentaires sur la base du volontariat. Les crèches seront ouvertes avec des groupes de 10 enfants maximum. Quant au lycée, la décision sera prise fin mai. Enfin, troisième point, plus besoin d'attestation de déplacement autour de son domicile et dans un rayon de 100 km. Au-delà, ceux-ci devront être justifiés par un motif impérieux, familial ou professionnel. Alors, docteur Jérôme Marty, qu'est-ce que vous pensez de ces annonces dont on apprend à lire la une du journal du dimanche et du Parisien aujourd'hui qu'elles auraient peut-être du plomb dans l'aile, en tout cas pour cette date du 11 mai?
Les annonces, elles sont normales. Elles mettent en place une dynamique que l'on demandait depuis des semaines, isoler, tester, isoler. Vous le savez, l'OMS avait dit test, 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 parce que le seul moyen, c'est effectivement d'arriver à isoler les patients qui sont porteurs de la pathologie, isoler également les sujets contacts, de façon à être certain que l'on bloque la diffusion de cette épidémie. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, ce que l'on sait, c'est que malheureusement, dans notre pays, nous avons perdu en quelque sorte 15 jours, 3 semaines que nous ne rattraperons jamais. Et puis, nous avons été en manque de tout, en manque de tests, en manque de masques. Vous connaissez le fameux fil rouge de cette crise sanitaire qui est ce manque de moyens de protection. Et pour les tests, on a bien vu que là aussi, l'hyper-administration française, le poids administratif, a fait que on a mis du temps à délivrer des autorisations à des laboratoires, en particulier les laboratoires territoriaux. Vous savez, ces fameux laboratoires qui font les tests sur les animaux, sur la qualité de l'eau, etc., qui étaient en capacité, nous disait-il, de faire 150 000 à 300 000 tests par semaine. Ils avaient proposé leur participation le 15 mars. On leur a donné l'autorisation le 4 avril. Or, il leur fallait 15 jours pour se mettre en place. Donc, ces fameux 15-20 jours que l'on a perdu, là aussi, on aura d'extrêmes difficultés à les rattraper. On peut vraiment s'étonner de cette gestion qui est toujours très lente, un peu comme un super tanker, vous savez, à qui on mettrait machine arrière et qui, sur son inertie, sur son air, continue à avancer encore pendant des kilomètres. Ben, c'est un peu ça l'administration française, c'est-à-dire que même dans un cas comme ça, qui est un cas extraordinaire, elle continue à avoir ses vieux réflexes et donc à avoir une lourdeur et une perte de temps pour donner des autorisations alors même que on est en état d'urgence.
Cet objectif de 700 000 tests par semaine annoncé par le gouvernement, il est raisonnable selon vous?
Il est optimiste sans doute parce qu'on n'est pas prêt encore. On sait qu'on manque encore d'écouvillons, on sait qu'on manque encore de robots, on sait qu'on manque encore de réactifs par endroit, on sait qu'encore un certain nombre de laboratoires n'ont pas reçu leurs autorisations. Donc, il est sans doute optimiste, mais il faut tendre vers cela. Il faut arriver à tester un maximum de personnes de façon à être certain que l'épidémie ne diffuse pas. Alors ensuite, on a mis en place ces fameuses brigades. On en parlera un peu plus tard sans doute. Peut-être faut-il craindre le fait qu'on ait mis tous nos œufs dans le même panier en quelque sorte et que l'on ne fasse que une seule façon de rechercher ces patients, que l'on n'utilise qu'un seul process, alors même que celui-ci n'a pas été validé en quelque sorte et n'a jamais été expérimenté. Mais ça, c'est le propre de cette crise. On avance dans l'inconnu et donc on est obligé d'aller plus vite que les effets de preuve.
Alors, docteur Jérôme Marty, beaucoup, beaucoup de questions. Hein. Je le disais, on est ensemble en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. On va commencer donc par certains sujets qui ont encore fait polémique hein, sur vos réseaux. Notamment, vous poussez de véritables coups de gueule. Hein, c'est assez rare hein, pour un médecin concernant. Alors, tout d'abord, le sujet des masques, qui est un scandale selon vous. On a affaire, selon vous, à un mensonge d'État sur le sujet ?
Oui, c'est probable. C'est probable, c'est même, enfin, c'est plus que probable. On sait tous maintenant qu'il n'y a pas eu, il n'y avait plus de stock dans notre pays. Vous savez que ce que l'on appelait les Prusses et qui est devenu ensuite la réserve sanitaire était en charge, c'est un organisme d'État qui est en charge à la fois du matériel et des personnels en cas de crise sanitaire. Et pour le matériel, il y a notamment les moyens de protection. Et donc, cet anciennement les Prusses avait au moment de la crise H1N1 mis des stocks qui allaient jusqu'à 1,7 milliard de masques, avec des masques à la fois chirurgicaux, les fameux masques plats, vous savez, les masques trois plis, et puis des masques FFP2, les fameux masques canards, dits masques de protection respiratoire. Il y en avait, je crois, 1 million et quelques pour les chirurgicaux et 700 000, je crois, pour les FFP2. On a appris très tardivement, je crois que c'était aux alentours du 19 mars, par le ministre Véran à l'Assemblée nationale, répondant à une question posée par Jean-Pierre Door, qu'il n'y avait pas de stock et qu'ils avaient découvert une situation donc de très forte pénurie en lien au fait qu'il n'y avait plus de stock. Et ça, on ne l'a pas su. Alors que eux, très, très, très clairement, ils ne pouvaient pas l'ignorer puisque le professeur Salomon, directeur général…
Eh oui, c'est ce que vous dites.
Vous le savez, était à l'époque, lors du gouvernement précédent, chargé de la sécurité sanitaire auprès de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Donc, il savait qu'il n'y avait pas de stock. Et ce qu'on leur a reproché, c'est que l'on n'ait pas dit la vérité immédiatement, dès le début de la crise, ce qui nous aurait permis de faire ce que l'on a fait immédiatement quand on a su ça, c'est-à-dire demander aux entreprises privées qu'ils se lancent dans la fabrication à la fois de masques alternatifs et puis qu'ils commandent eux aussi, les collectivités locales, les mairies, les départements, les régions, qu'ils commandent aussi des masques. Et on a vu qu'on a pu bénéficier d'apports en quelque sorte de réseaux parallèles pour faire face au retard pris dans les commandes par l'État, puisque tout au long de cette crise, on aura été mal protégé, voire peu protégé. On nous aura fait passer des décrets qui sont quand même extraordinaires par les ARS qui autorisaient l'emploi de masques qui étaient en date de péremption de 6 mois, puis après de 2 ans, et ensuite on a même reçu des masques qui avaient des fois 7, 8, 9 ans de date de péremption. Donc on était comme dans un pays en voie de développement, alors qu'on est la 6e
puissance. Alors on va y revenir hein, plus en détail, bien sûr, sur ces polémiques, mais j'aimerais revenir un petit peu sur le cas de Jérôme Salomon, parce que vous avez été très virulent à son égard. Hein. Vous avez même poussé un énorme coup de colère contre lui, qui s'est… Le coup de colère a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. Hein, c'était dans la matinale de CNews. Vous l'avez traité de menteur, je cite, de général qui a envoyé ses troupes à poil combattre un virus. Et vous avez même réclamé sa démission. Vous maintenez cet appel à la démission de Jérôme Salomon ?
Ben oui, évidemment. Écoutez, on est à 36 soignants décédés. Alors, on n'a pas le lien direct avec le manque de protection, mais on sait que déjà quelques familles émettent des doutes et une porte plainte déjà. On a envoyé les troupes, les fantassins, en particulier la médecine libérale, sans aucune protection face à des patients qui étaient extrêmement émetteurs de virus, notamment à domicile, avec de véritables bains viraux. On a des soignants qui ont respiré de la charge virale à plusieurs reprises par jour, plusieurs jours d'affilée, qui se sont retrouvés en réanimation et dont certains sont morts. Certains autres auront des séquelles toute leur vie. Il y a eu une violence d'État à l'égard des soignants de par cette impression qu'ils ont eue d'être abandonnés et de faire face à leur mission à laquelle ils ont rempli. Et ça, on savait qu'ils rempliraient cette mission, mais qu'ils ont rempli avec des moyens qui n'étaient pas les moyens qu'il fallait pour ce genre de choses. Encore une fois, il y avait un devoir de vérité. Ce devoir de vérité n'a pas été respecté. Monsieur Salomon, tous les soirs, a calmé le jeu en disant au départ qu'il y avait des stocks, ensuite qu'il y avait eu des commandes de fête, ensuite que les masques chirurgicaux étaient quasi égaux aux masques FFP2. Ensuite, on nous a dit qu'il fallait que le médecin mette un masque et le patient mette un masque, et ainsi les deux étaient protégés. On nous a même dit à un moment, si vous mettez un masque chirurgical par-dessus un masque chirurgical, vous arriverez à peu près à l'efficacité d'un masque FFP2. Toutes ces choses étaient évidemment fausses, et toutes ces choses ont fait qu'un certain nombre d'entre nous, sans doute, se sont contaminés. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que, un, quand on a menti comme ça, y compris sur l'intérêt du port de masque, parce que si vous avez des médecins, et j'en suis, qui en début d'infection, on dit à la population, ce n'est pas nécessaire de porter un masque, parce que le seul moment où vous devez porter un masque, c'est quand vous êtes malade pour protéger votre entourage. On disait ça au tout début. Ensuite, on a su qu'il y avait beaucoup de formes asymptomatiques. Pour vos auditeurs, qu'est-ce que c'est une forme asymptomatique? Vous développez la maladie, vous en guérissez, vous ne le saurez jamais. Mais pendant la période où vous avez développé la maladie, vous excrétez du virus et donc vous êtes contaminant pour les autres. Beaucoup de formes sont comme ça. Et c'est pour ça que l'on dit depuis plusieurs semaines, vous devez porter des masques pour protéger votre entourage parce que peut-être êtes-vous porteur sans le savoir. Donc, dans toutes les situations où la distanciation physique est rompue, vous devez porter un masque, la personne qui est en face de vous doit en porter un également et ainsi tout le monde est protégé. Le professeur Salomon a relayé la doctrine du gouvernement pendant des semaines et des semaines, disant que il n'avait pas la preuve scientifique de l'intérêt de porter un masque, que les vraies mesures barrières, c'était le fait de se laver les mains et de se tenir à distance des autres, que les gens ne sauraient sans doute pas porter un masque, que si on portait un masque, sans doute on oublierait les autres gestes, etc., etc., ce qui a plongé la population dans un état de confusion et de doute par rapport à l'utilité de ces masques, qui était tout à fait compréhensible et qui nous a fait perdre du temps. Donc, il n'était pas dans sa mission. Il a juste obéi. À partir de là, c'est ce que j'ai dit.
Eh oui, parce qu'on imagine qu'il n'était pas le seul coupable, hein, selon vous. Qui est-ce que vous tenez comme responsable principal de l'émergence de cette crise sur ce sujet?
Non, il n'est pas le seul coupable, mais il a un rôle qui est un rôle central. Il est médecin et en cela, il ne devait pas obéir à cela. Et à tout le moins, puisque l'on sait qu'il était au courant des manques de masques, il aurait dû, dès le début, dire « Attention, on a une situation catastrophique. Nous n'avons pas de stock. » Nous avons commandé, mais ils ont commandé, on le sait maintenant, au départ, pas en assez grande quantité. Il aurait dû dire aussi, on a un doute quant à l'aérosolisation, il y a peut-être une deuxième voie de contamination qui sont des gouttelettes, des micro-gouttelettes qui restent en suspension. Il faut sans doute, par mesure de précaution, pour les soignants, et spécifiquement pour les soignants qui sont au contact rapproché et prolongé avec les patients, mettre des masques FFP2. Tout ça n'a pas été fait. À partir de là, tout devra se régler devant la justice ensuite. C'est probablement ce qui va se passer. Et puis, on leur demandera des explications, mais qui sont normales, qui sont fondées. Ça ne veut pas dire qu'on leur en veut et qu'on les attaque. Ça veut dire simplement qu'on est tous en attente d'explications.
Jérôme Marty, vous êtes notre invité dans Les Incorrectibles sur Sud Radio jusqu'à 14h. Nous sommes ensemble en direct. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, je le disais, avec notre invité. On le remercie d'être en direct avec nous depuis Toulouse, une ville que Sud Radio connaît bien. C'est le docteur Jérôme Marty. Alors, il est médecin généraliste, il exerce à Fronton, mais il est également président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre qui compte au sein donc de ce syndicat des médecins à la fois de ville et des médecins hospitaliers. C'est ce qui fait l'originalité de votre syndicat. Alors, docteur Jérôme Marty, il y a un instant, on parlait du cas, si je puis dire, de Jérôme Salomon. Vous êtes particulièrement sévère à son égard, et puis à l'égard évidemment de tous ceux qui seraient responsables, selon vous, de cette crise. Je le disais, il n'était peut-être pas le seul responsable, pas le seul coupable. Est-ce que vous attendez, on en parlait juste avant de s'interrompre, des procédures pénales? Est-ce que vous pensez qu'elles doivent être engagées à l'encontre de ceux qui seraient, selon vous, coupables pour mise en danger d'autrui, voire homicide involontaire? Il y a beaucoup de commentaires à ce sujet.
Écoutez, la population médicale est en attente d'explications. De nombreux patients sont également en attente d'explications. Il est probable qu'il y aura effectivement des poursuites. On sait qu'il y a déjà 600 médecins qui sont défendus par un avocat qui ont monté un groupe, un collectif qui s'appelle le collectif C19, qui ont commencé à lancer cela. Nous, de notre côté, nous avons dit que le temps n'était pas au juridique, que pour l'instant, le temps était aux soins, mais que dès que nous serions sortis de la crise, il était évident que nous poursuivrions. Notre avocat, l'avocat de l'UFML, a déjà préparé les attendus des plaintes. Ensuite, nous irons auprès de nos adhérents et auprès des médecins pour voir s'ils veulent poursuivre. Je ne doute pas qu'il y aura des plaintes et on sait aussi qu'il y a des familles qui déjà portent plainte pour défaut de protection, mise en danger d'autrui, parce qu'elles ont perdu leur proche qui était soignant et qui, selon elles, n'a pas été ou n'a pas pu bénéficier de suffisamment de protection.
Je le disais, au sein de votre syndicat, donc l'Union française pour une médecine libre, il y a beaucoup de médecins de ville. Vous dénoncez l'absence d'égard du gouvernement pour les soignants qui sont tombés, qui n'ont pas eu droit à un seul mot du Premier ministre, et pour ce mépris envers la médecine de ville.
Alors, le mépris pour la médecine de ville, aujourd'hui, ils se reposent sur nous pour la partie déconfinement, on le voit bien. Malheureusement, on ne s'est pas assez reposé sur la médecine de ville pour la partie confinement, en phase 2 et en phase 3. En phase 2, on a carrément shunté la médecine de ville pour envoyer tous les patients à l'hôpital, ce qui, à notre sens, n'était peut-être pas la meilleure chose, puisque cette maladie est une maladie de la communauté, c'est une maladie de la concentration populationnelle. Donc, ce qu'il faut, c'est disperser les gens et non pas les regrouper. Donc là, il y avait peut-être une erreur, mais ça, bon, l'histoire le dira. Ensuite, on ne s'est pas assez reposé sur nous. On a parlé, vous le savez, on a fait un focus sur la réanimation qui représente 3 à 5 % des patients à peine. On a parlé des décès en réanimation. Vous avez ce décompte morbide tous les soirs par le professeur Salomon, tant d'hospitalisés, tant de décès, tant de guéris, etc. Ce qui n'a aucune valeur épidémiologique, qui ne nous aide absolument pas. Surtout, encore une fois, 95% des patients sont en ville, sont pris en charge par la ville d'abord. Ensuite, c'est la ville qui les hospitalise. Donc, vraiment, la vision de la circulation populationnelle de ce virus, de sa position sur le territoire, elle est faite par la ville, elle n'est pas faite par l'hôpital où on centralise cette focale. Donc, on peut regretter qu'on n'ait pas assez reposé ou demandé son appui à la médecine de ville. Et puis, après, vous avez parlé du discours d'Édouard Philippe, on a été extrêmement surpris, extrêmement peiné, extrêmement blessé par les mots qu'il a pu employer lorsqu'il a avoué que face à la pénurie de masques, il n'avait eu que 3 solutions. La première était la mise en production de masques. La deuxième était de réserver, a-t-il dit, les moyens de protection et les masques aux soignants hospitaliers. Donc là, on a bien vu qu'il y avait un aveu d'une espèce de différenciation qu'il y avait entre les soignants hospitaliers. Et vous savez combien on est proche d'eux. Et on salue d'ailleurs le fait qu'on ait pu les protéger. Mais on sait que malheureusement, dans beaucoup de centres hospitaliers, ils n'ont pas été si protégés que ça. Et eux aussi ont été en manque de moyens de protection. On a pu voir des surblouses en sac poubelle, etc. Vous vous souvenez de ces images? Et puis enfin, la production de masques alternatifs aux masques tissus. Mais bon, cette espèce de différenciation qui nous a dit aussi les masques FFP2, c'est pour l'hôpital, les masques chirurgicaux, c'est pour la médecine de ville. Ces images, vous vous souvenez, de médecins généralistes ou d'infirmières allant au domicile d'un patient suspect d'être Covid, où on appelle le SAMU et où le SAMU envoie une ambulance, où on a 2 scaphandriers qui arrivent, alors même que c'est le même patient, au même moment, avec un généraliste qui a juste un masque plat et 2 ambulanciers travaillant avec le SAMU qui arrivent habillés comme un scaphandre, nous ont laissé à penser effectivement que pendant un temps, on a été méprisés et abandonnés.
Alors, si vous le voulez bien, docteur Jérôme Marty, on va revenir justement sur le scandale des masques que vous évoquez. Vous dénoncez aussi le scandale autour des masques stockés par les acteurs de la grande distribution. Les pharmaciens et autres professionnels de santé s'indignent aussi, eux qui en manquent depuis des semaines alors qu'ils sont en première ligne. Et là, on annonce tranquillement que plusieurs centaines de millions de masques vont être disponibles dans les prochains jours. Alors, il y a Michel-Édouard Leclerc qui s'est exprimé aujourd'hui, c'était notamment sur les réseaux sociaux également, pour dire tout ça, c'était de la foutaise. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Michel-Édouard Leclerc, docteur Jérôme Marty?
Il a même parlé de raisonnement débile, je crois, quoi, à propos du stockage. Ben, je rentrerai pas, moi, dans l'invective avec Michel-Édouard Leclerc. La seule chose, c'est qu'encore une fois, un certain nombre d'entre nous sont tombés, un certain nombre d'entre nous ont été malades. On sait que la population française a été en recherche de masques pendant très longtemps, trop longtemps, le gouvernement s'est heurté à une concurrence internationale. Et puis là, on a la grande distribution qui nous dit 175 millions de masques, l'autre 170, l'autre 100 millions, enfin bref, 440 millions de masques commandés. Ils font de la publicité autour de ça. Ils nous disent qu'ils vont être disponibles dans les rayons à partir du 4 mai. Entre-temps, Olivier Véran intervient hier en disant que la grande distribution ne dispose en fait que de 5 à 10 millions de masques. Et Michel-Édouard Leclerc intervient en disant que ils ont réservé, mais qu'ils n'en disposent pas, mais qu'ils vont être dans les rayons. Alors, on lui dit deux choses. La première, pour lever toute ambiguïté, pour lever tout doute quant au fait qu'ils auraient pu disposer peut-être de masques au moment où on en avait tous besoin, les soignants comme d'ailleurs les patients, c'est-à-dire pendant le confinement. On leur demande quelque chose de très simple, qu'ils nous montrent le bon de commande et le bon de livraison. C'est aussi simple que ça, c'est pas leur faire insulte que de demander ça, c'est juste pour lever l'ambiguïté et on est très content qu'ils disposent de masques et qu'ils puissent les fournir à la population. Ça, c'est une chose, ça nous paraît vraiment clair. Et puis ensuite, si vraiment ils n'ont reçu que 5 à 10 millions, à ce moment-là qu'ils nous disent en combien de temps ils vont disposer de ces fameux 170 millions, parce que c'est tout à fait différent qu'ils en disposent au mois de septembre par rapport au mois de juin, c'est différent. Alors s'ils sont très forts, effectivement, ils les ont sur une période très courte, ils en disposent, et à ce moment-là, mais on n'en doute pas qu'ils aient de bons négociateurs, qu'ils aient de bons acheteurs, un bon réseau, mais à ce moment-là, on peut se demander pourquoi l'État n'a pas fait appel au privé pour lui donner mandat d'acheter les masques pour la France, puisqu'on a eu l'impression que le fait de recevoir pour nous, enfin, que ça a pris beaucoup de temps pour que l'on reçoive des masques. On reçoit encore 18 masques par semaine, tantôt 18 chirurgicaux, tantôt 12 chirurgicaux et 6 FFP2, c'est très peu.
Docteur Jérôme Marty, pour être tout à fait clair, ce que vous dites quand même en leur demandant leur bon de commande, d'ailleurs Renaud Muselier, le président de la région, les demande aussi, vous mettez en doute leur parole?
Je ne mets pas en doute leur parole du tout. Non, eux nous disent on n'a pas de stock. Bon, mais nous, bon, eux le disent, ils ont le droit de le dire, mais ça ne nous suffit pas. Je suis désolé, on a été depuis le début de cette crise, on nous a dit beaucoup de choses. On nous a dit tout et son contraire, tout le temps. On nous a dit on a des stocks. Il n'y en avait pas. On nous a dit, on n'a pas de stock, mais on a commandé. On n'avait pas commandé. On nous a dit, ça va arriver. Ça n'arrivait pas. On nous a dit de porter des masques périmés. On nous a dit, vous pouvez porter des masques chirurgicaux, ils vous protègent comme les FFP1, comme les FFP2. Ce n'était pas vrai. On nous a dit, il n'y a que des gouttelettes. Non, il y avait des gouttelettes et de l'aérosol. Donc, on nous a dit, on nous a baladé depuis le début. Donc, nous, quand on nous dit ça, on est étonné. C'est pas faire insulte à Michel-Édouard Leclerc, ni à Monsieur Bompard, ni à Carrefour, ni à Leclerc, ni à Intermarché, ni à Netto. Que de leur demander juste quelque chose de très simple, qui est le fait de nous dire, écoutez, regardez, vous pouvez être sûr, le bon de commande, il est là, il est de telle date, le bon de livraison, il est de telle date, et voilà.
Et qu'est-ce qui se passe s'il ne vous le donne pas, ce bon de commande? Renaud Muselier dit qu'il va saisir la justice. Vous êtes pour ça?
Ben écoutez, on va laisser Monsieur Muselier faire ce qu'on avait annoncé, nous, de notre côté. C'est très bien s'il peut le faire. Libre à lui de le faire, mais on va observer ça de près. Nous, on estime qu'au regard de l'importance de ces masques, il y a deux choses. Un, on ne peut pas faire du commerce autour de ces masques et faire de la publicité autour de ces masques.
On est sur la ça, ils ont dit que de toute façon, ils seraient vendus à prix coûtant. D'ailleurs, on va y venir dans un instant.
Oui, mais à prix coûtant, alors là, prix coûtant, on va rappeler quand même qu'avant la crise, le prix d'une boîte de 50 masques, c'était autour de 4 euros, ce qui met le masque à 8 centimes d'euros.
Oui, là, on parle d'une fourchette de prix entre 2 et 5 euros. Hein,
Alors là, aujourd'hui, je crois que si on va plafonner à 0,95 euros le masque, ce qui fait quand même plus de 10 fois le prix d'origine. Donc, c'est pour ça qu'on veut savoir quand est-ce qu'ils les ont achetés, parce que c'est tout à fait différent. S'ils les ont achetés en début de crise, ils font vraiment de la marge dessus. S'ils les ont achetés, comme ils le disent, et après tout, on peut sans doute les croire, ils les ont payés beaucoup plus cher puisque le prix des transports est élevé puisqu'il y a moins d'avions, etc. La production aussi, et puis les pays producteurs ont élevé leur prix. Donc tout ça, on a besoin de savoir. Vraiment, on a besoin de savoir si oui ou non, on est trompé.
On va d'ailleurs peut-être assister à une discrimination entre les personnes les plus aisées, les plus pauvres, une fois de plus. Vous dénoncez cela ?
Oui, parce que vous savez qu'il y a des pays où les masques sont à disposition gratuitement. Nous, on demande à ce que dans des lieux particuliers, comme les lieux recevant du public, comme le métro par exemple, qu'il y ait des mises à disposition de masques pour ceux qui ne peuvent pas en avoir, qu'il y ait non seulement une surveillance du port de ce masque, parce qu'il est extrêmement nécessaire dans ces lieux-là que chaque personne porte un masque, mais pour ceux qui n'en disposent pas, qu'on puisse leur en fournir. On est sur de la santé publique. Encore une fois, on doit regarder, on ne doit pas faire des économies de bout de chandelle. Même si on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros, ça paraît fou de parler de bout de chandelle. Mais si l'épidémie repart, les conséquences sanitaires et les conséquences économiques…
Vous pensez qu'il y a un risque qu'elle reparte, l'épidémie, qu'il y ait une deuxième vague? Le professeur Raoult a dit qu'il ne s'en inquiétait pas.
Je crois qu'il serait fou de dire qu'il n'y a pas de risque. Très honnêtement, dans nos régions, quand je dis dans nos régions, je parle du Sud-Ouest par exemple, dans nos régions, on voit bien que l'épidémie s'est effondrée et que le virus, depuis des semaines, circule peu. On avait d'ailleurs dit qu'il n'y aurait probablement pas de vagues dans nos régions. C'est ce qui s'est passé. C'est resté calme. C'est resté calme parce que on n'a pas de concentration populationnelle comme on peut en avoir sur l'île de France, par exemple. Et on n'a pas eu de départ de clusters importants comme il y a pu avoir à Mulhouse ou dans l'Oise. Donc, ça ne s'est pas développé. On a eu le confinement qui a été mis en place assez tôt. Mais dans des régions comme l'île de France, par exemple, il y a des risques, oui, que l'épidémie reparte, dans la mesure où on ne sait pas si ce virus a une saisonnalité ou s'il n'en a pas, c'est-à-dire s'il va disparaître avec la chaleur ou s'il ne va pas disparaître avec la chaleur. Tout ça, on ne le sait pas. Donc oui, le rôle de chacun, votre rôle, mon rôle, le rôle de Pierre, Paul, Jacques, Virginie, le rôle de chaque personne est important. C'est un combat individuel. Chaque geste individuel amène à un geste d'équipe collective. C'est une équipe de France qui doit lutter. Elle a lutté pendant le confinement, elle a permis sa réussite. Elle doit lutter pendant le déconfinement pour que le déconfinement réussisse sans jamais lever le pied. Il y a un panneau derrière moi, je le mets chaque jour, J-8 déconfinement, ne vous relâchez pas. C'est extrêmement important. Ce virus va nous accompagner pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Donc, il faut qu'on soit extrêmement prudent, mais qu'on ait les moyens de notre prudence et qu'on puisse les avoir. Et effectivement, vous l'avez dit, un certain nombre de personnes qui sont à faible niveau économique, pour eux, c'est une charge très importante d'acheter des masques dont on sait qu'ils n'ont une durée de vie que 2 heures pour les masques jetables. Et pour les masques tissus, il faut les laver. Mais au bout de 4-5 heures, le masque tissu a également perdu ses propriétés.
Jérôme Marty, médecin généraliste, vous êtes notre invité dans les Incorrectibles sur Sud Radio jusqu'à 14 heures. Nous sommes en direct. On revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les Incorrectibles, nous sommes toujours en direct, confinés. C'est la raison pour laquelle nous recevons notre invité à distance. On le remercie d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Il s'agit du docteur Jérôme Marty. Alors, il est médecin généraliste. Je le disais, il exerce à Fronton, en Haute-Garonne. Il est également président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Alors, docteur, on parlait bien sûr des masques, de ce vaste sujet des masques. Parlons à présent un petit peu des tests. Vous dénoncez le non-dépistage des personnes asymptomatiques alors que celles-ci sont un vrai danger de contamination. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler un peu de quoi il s'agit ? Le gouvernement, là encore, selon vous, nous mettrait en danger ?
Non, je ne dis pas qu'il met en danger, mais je dis que on a mis tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire que d'un côté, on crée ces brigades, on en parlera tout à l'heure, qui vont être chargées de remonter, de retrouver les sujets contacts à un patient contaminé. Et de notre côté, on ne va tester donc que des gens symptomatiques et ensuite des gens qui ont été en contact avec cette personne symptomatique. On sait que cette pathologie revêt de nombreuses formes qui sont des formes asymptomatiques. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut sans doute que l'on recherche de façon aléatoire, en regardant quelles sont les personnes qui ont le plus d'interactions sociales, les personnes d'entre nous qui sont amenées dans leur métier, dans leur vie sociale, à croiser le plus de personnes, et que l'on teste, en montant ce test, un peu comme on le ferait pour un sondage avec l'IFOP, avec la Sofres, faire un sondage véritablement populationnel pour avoir une idée de la diffusion de ce virus d'une région sur l'autre, en quelque sorte allumer la lumière pour savoir comment il se répand et pouvoir agir sur les lieux où il y a le plus de circulation. On a besoin d'avoir des études. Pour l'instant, on est toujours dans le noir. On n'a pas d'idée de la diffusion populationnelle du virus. D'autres pays l'ont fait. Alors certes, le ministre nous dit, mais on ne peut pas tester les asymptomatiques puisqu'il faudrait les tester tous les 10 jours, puisqu'après tout, ils sont asymptomatiques un jour et ils peuvent être malades le lendemain. Il faudrait qu'on teste régulièrement. Il n'a pas tort. Le seul truc, c'est que nous, on dit, il faut qu'on fasse un test qui est un test véritablement qui va nous montrer pourquoi, si dans telle région ou dans tel département, ça circule plus par rapport à tel autre, etc. Pour qu'on ait des lieux comme ça de comparaison. Et puis après, il y a une autre méthode qu'emploient d'autres pays où il va falloir quand même qu'on s'y intéresse, ce sont les tests salivaires. On fait ce que l'on appelle du pooling. Le pooling, c'est quoi ? C'est qu'on prend, on teste 30 personnes avec le même réactif. Si ce réactif est positif, à ce moment-là, on va les tester individuellement. S'il est négatif, on va écarter les 30 personnes. Et on voit qu'on a usé un test pour 30. Et comme ça, on peut avancer beaucoup plus vite par paquet de populationnels. Donc ça, on peut le mettre aux côtés du reste. Pour l'instant, on ne fait que les brigades, peut-être qui viendront au reste, on verra.
Plus que dans le port du masque, c'est là que devrait être la priorité, vous le dites, Jérôme Marty, c'est à présent les tests.
Non, c'est deux choses qui sont complémentaires. Le port du masque, c'est pour protéger l'autre, encore une fois, c'est pour bloquer la diffusion de la maladie. Et le test, c'est véritablement pour tester, écarter, c'est-à-dire trouver quelqu'un de patient, de malade, le mettre en confinement pour qu'il évite de contaminer autour de lui, rechercher les cas contacts avec qui, enfin les cas avec les personnes, hommes et femmes, avec qui il a été en contact, de façon à vérifier qu'ils ne soient pas atteints de la maladie et les écarter également, de façon à ce qu'ils ne diffusent pas eux aussi. En fait, c'est empêcher chaque foyer épidémique, les empêcher de se développer.
Alors, docteur Jérôme Marty, je le disais, vous êtes bien sûr avant tout médecin, médecin généraliste, donc au contact de nombreux patients, on l'imagine, pour certains atteints donc de ce Covid-19. Un petit mot avant de parler du cas Raoult sur le traitement, parce que finalement, beaucoup de nos auditeurs sur Sud Radio sont finalement au premier chef concernés par tous ces discours de médecins. On n'y comprend plus grand-chose, pour être tout à fait honnête, entre ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. On a l'impression que finalement, la communauté médicale est finalement assez perdue. Vous, concrètement, au jour le jour, aujourd'hui, je suis patient, je viens vous voir, je suis positif au Covid-19. Qu'est-ce que vous me proposez pour me soigner?
Alors, ce que l'on sait, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Aujourd'hui, on a, pour être clair avec vos auditeurs, on n'a pas de traitement. Quand on dit on n'a pas de traitement, on n'a pas de traitement dont l'efficacité.
Non, mais c'est terrible ce que vous nous dites là.
Mais c'est la réalité. Il n'y a pas de traitement dont l'efficacité est prouvée. Par contre, ce que l'on sait, c'est que cette maladie a de gros retentissements vasculaires. Qu'en réanimation, il y a beaucoup de patients qui font ce que l'on appelle des embolies pulmonaires. Donc, ils vont boucher des troncs artériels, faire en quelque sorte des infarctus du poumon. On a des vascularites, on a des troubles, des micro-emboles aux extrémités avec des nécroses, avec des nécroses qui sont liées à des emboles, c'est-à-dire des bouchons dans les artères, dans les micro-artères. Donc, ce qu'on fait en réanimation, c'est que l'on met ces patients sous anticoagulants. On leur fait des injections qui vont permettre au sang d'être plus fluide et d'éviter d'avoir ces fameux emboles. Nous, ce que l'on fait en médecine libérale, en médecine de ville, un certain nombre d'entre nous, c'est que sous surveillance, bien sûr, et en l'ayant expliqué aux patients, on met les patients sous anticoagulants de façon préventivement à éviter qu'ils aient ces troubles secondaires liés à la maladie et ces complications liées à la maladie qui, bien souvent, les amènent en réanimation. De plus en plus de personnes le font et on a demandé d'ailleurs à ce que l'on ait des guidelines en médecine de ville, c'est-à-dire des guides qui nous permettent de faire ce type de traitement et d'appliquer ce que font nos confrères réanimateurs. Malheureusement, on ne les a toujours pas reçus, donc on fait avec notre savoir et on se débrouille. Et puis après, vous avez les traitements antibiotiques, on a pu en parler, de type azithromycine, vous en avez entendu parler. Un certain nombre de médecins prescrivent ces produits. Dans l'Est, les médecins qui ont eu beaucoup de cohortes de patients, qui voyaient 30-40 Covid par jour, un certain nombre d'entre eux ont prescrit, on le sait, de l'azithromycine plus les fameux anticoagulants dont je vous parlais, plus deux à trois autres produits pour renforcer l'efficacité du premier produit. Il y a eu des effets positifs, semble-t-il. On n'a pas de vraie étude là-dessus, donc il faut raison garder. Ce qui est certain, c'est que la médecine, c'est toujours un bénéfice-risque. Primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. Et après, vous regardez les bénéfices et le risque. Et puis aussi, il y a le consentement du patient qui est extrêmement important. Donc, ça veut dire qu'on explique au patient les tenants et les aboutissants, les risques et les apports d'un traitement. La médecine se fait à deux. Et ensuite, on lui demande si on va poser ce traitement et on le construit tous les deux. Donc là, avec toute cette prudence-là, et pour des patients dont on sait qu'ils présentent le risque d'évolution sévère de cette pathologie, en particulier des patients polypathologiques et âgés, on a pu prescrire ce type d'antibiotiques type l'azithromycine pour être toujours sous surveillance, électrocardiogramme, etc., pour être sûr que, en tout cas, pour minorer le risque de développement de symptomatologie grave.
Mais en tout cas, on n'est pas face à une grippette, hein, comme beaucoup, y compris peut-être vous-même le disiez au début de l'épidémie. Finalement, on a affaire à une vraie pandémie grave de contagiosité très très forte. Est-ce qu'aujourd'hui, raisonnablement
encore... C'est bien que vous disiez ce mot, parce qu'il faut s'expliquer sur ce terme grippette. Ça n'a jamais été, on n'a jamais dit que cette pathologie était une grippette. Ce que l'on disait, il faut se replacer au moment, début février, quand il y avait un seul décès sur la France entière versus la grippe qui habituellement fait entre 6 000 et 10 000 morts par an. On disait il faut raison garder. Par contre, on sait qu'il y a un risque pour les personnes âgées, pour les pathologiques, et donc il faut les protéger. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a qu'un seul décès en France, donc c'est pas la peine de s'affoler. Et on avait un début d'affolement de la population, et donc c'est ce qu'on disait. On a corrigé ce tir-là quand on a eu la progression de la maladie et qu'on a vu qu'elle touchait aussi d'ailleurs des gens plus jeunes, et puis qu'il n'y avait pas véritablement l'évolution habituelle de la grippe. Donc là, on a corrigé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que face à une pathologie qui était totalement émergente, avec aucune connaissance dessus. Le seul critère sur lequel on pouvait se baser, c'était l'évolution des cas. À partir de là, quand vous avez un cas versus des milliers, vous êtes obligé de dire aux gens, attendez, pour l'instant, on se calme, on essaye de mettre en place les mesures barrières, on essaye d'avancer, mais ne nous affolons pas.
Mais est-ce que vous nous confirmez que ces chiffres finalement de morbidité, de mortalité sont toujours finalement, c'est terrible à dire, mais assez peu importants au regard de l'ampleur des personnes contaminées?
Oui, il y a une différence, si vous voulez,
Vous nous rappelez ces chiffres?
L'évolution brutale que peut avoir cette pathologie, dont on sait par exemple que chez les patients âgés, la bascule se fait en quelques heures. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va bien et en quelques heures, il développe une forme grave de la pathologie avec une issue fatale qui va être faite en inférieurement souvent à 24 heures. Et puis des jeunes qui, on l'a bien vu, sont retrouvés en réanimation et dont certains sont morts avec des pathologies respiratoires, des pathologies vasculaires. Donc ça, c'est pas vraiment le cas de la grippe, en tout cas pas si fréquemment. Pour autant, il faut bien retenir que 99%, voire plus, des gens s'en sortent. Il y a un taux de létalité aujourd'hui qui est à 0,6%. Donc ça veut dire que 0,6% des patients atteints de cette pathologie en décèdent. Et ensuite, si on regarde la cohorte, on sait que l'on a 30 à 40% de patients qui vont développer des formes asymptomatiques. Donc, vous avez la maladie, vous en guérissez, vous ne le savez pas. Et puis, sur les patients, sur les formes symptomatiques, les formes qui vont donner des maux de tête, de la fièvre, de la toux, de l'oppression thoracique, de la dyspnée, de l'essoufflement, toutes ces choses-là, vous avez 80% des patients qui ne relèveront pas d'une hospitalisation. Et sur les patients qui vont être hospitalisés, vous avez 80% des gens hospitalisés qui ne relèveront pas de la réanimation et 20% qui relèveront de la réanimation. Ce qui veut dire qu'en gros, la réanimation représente 5% des gens. Et ensuite, si on regarde et si on met le focus sur la réanimation, l'âge médian en réanimation est de 56 ans. Ça veut dire que la moitié des patients ont moins de 56 ans, la moitié ont plus de 56 ans en réanimation. Mais les patients qui décèdent de la pathologie sont dans leur immense majorité des gens qui sont âgés et polypathologiques. Et dans les polypathologies, on en discutait tous les deux avant l'émission, vous avez notamment l'obésité et l'hypertension.
Donc vous nous dites aujourd'hui en direct sur Sud Radio au 3 mai, docteur Jérôme Marty, qu'aujourd'hui pour soigner donc du Covid-19, à votre disposition, en tout cas ce qui semble faire ses preuves, c'est l'azithromycine et un anticoagulant, c'est ça ce que vous prescrivez majoritairement?
Je dirais pas ce qui semble faire ses preuves. Je dirais que un certain nombre de médecins l'ont pratiqué et ont vu qu'il y avait, semble-t-il, un raccourcissement de la symptomatologie et une amélioration des cas, mais nous n'avons pas de preuves. Or, la médecine, elle est basée sur les preuves. C'est ça qu'il faut bien retenir. C'est-à-dire que là, on est devant une pathologie émergente et n'ayant pas de preuves, il y a une part d'empirisme, mais on ne peut pas construire la médecine sur l'empirisme. Donc, il faut quand même être prudent parce que nos patients ne peuvent pas être des cobayes. Donc, toute la problématique est là. Sur la partie anticoagulante, celle-là, elle est plus sûre puisqu'elle est pratiquée en réanimation et donc elle peut être pratiquée sous surveillance, là encore, en médecine de ville. En tout état de cause, ce qu'il faut bien dire à vos auditeurs, c'est que par rapport à des pathologies comme celle-ci, il ne faut, déjà dans la vie normale, il ne faut pas le faire, mais face à cette pathologie encore moins, ne jamais, jamais, jamais faire d'automédication. Ce sont des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires importants, notamment dans leur surdosage. Donc, il faut toujours voir votre médecin et construire le soin avec votre médecin.
Oh, mais cette prudence que vous revendiquez, parce qu'on vous sent quand même prudent dans les moyens de traiter vos patients, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement trouver quelques excuses à nos gouvernants qui eux-mêmes, justement, ne sachant pas, n'ont peut-être pas pris ces mesures qu'on leur reproche aujourd'hui, mais avec évidemment un peu plus de recul, quoi?
Non, parce que là, vous me parlez de traitement. Le reste, ce sont des moyens de protection. D'un côté, vous avez de la prévention et de l'autre, vous avez du curatif. C'est tout à fait différent. Quand vous êtes sur de la santé publique, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre soin de ceux qui prennent soin. C'est protéger ceux qui prennent soin parce que vous avez besoin de ces troupes. Parce que le rôle d'un médecin, le rôle d'une infirmière, d'une aide-soignante, ce n'est pas de transmettre la maladie, mais c'est bien de soigner le patient. Si jamais vous les mettez en condition d'être contaminés, ils sont à l'opposé de leur mission, c'est-à-dire que potentiellement, ils sont porteurs de la maladie, vecteurs de la maladie, et ils peuvent être contaminants pour leurs patients. Donc déjà, vous inversez leur métier en quelque sorte. Et puis ensuite, vous devez tout faire pour les protéger de façon à ce qu'ils soient sur la ligne de front et non pas chez eux malades au moment où vous avez le plus besoin d'eux. Et puis, vous avez un devoir de vérité vis-à-vis d'eux. Parce qu'on ne peut pas imaginer que l'on soigne dans le doute. Donc, vous avez ce devoir de vérité. Donc, toutes ces choses-là n'ont pas été remplies. C'est cela que l'on dénonce. Après, sur les traitements, encore une fois, il y a la liberté de prescription. On est libre, en le construisant avec le patient, d'user d'un traitement qui n'est pas prouvé, mais tout en gardant à l'esprit que c'est de l'empirisme et qu'il n'y a pas de preuve par rapport à cela, et tout en mesurant les risques avec ce fameux bénéfice-risque et cet axe, ce socle de notre médecine qui est le primum non serré, premièrement, ne pas nuire.
Une question sur les réseaux sociaux de Cécile Cadet. Que pensez-vous, docteur Jérôme Marty, quant à un éventuel vaccin à venir pour éradiquer cette polémique?
Qu'il est probable qu'il y aura un vaccin, mais ça va prendre du temps parce que le temps n'est pas compressible, malheureusement, dans la mise en œuvre d'un vaccin qui va servir à des milliards de personnes sur Terre. Il est probable que si l'on avait un vaccin, on ne l'aura pas avant 2021.
Merci Jérôme Marty, vous restez avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à 14h dans Les Incorrectibles. On se retrouve dans un instant pour, déjà la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, nous sommes toujours en direct, confinés. C'est la raison pour laquelle nous sommes à distance avec notre invité. Il s'agit du médecin généraliste Jérôme Marty. Il exerce à Fronton, en Haute-Garonne. Il est également président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre qui comporte à la fois des médecins de ville et des médecins hospitaliers. Alors, en parlant justement de médecins hospitaliers, je pense que vous allez deviner où je veux en venir. On parlait il y a un instant du traitement. Vous aviez évoqué l'azithromycine. Alors, un de vos confrères, le désormais célèbre professeur Raoult, a critiqué d'ailleurs lui aussi la gestion de cette crise en s'en prenant notamment au conseil scientifique. Alors d'abord, une première question, un avis sur ce conseil qui entoure le chef de l'État, ce conseil scientifique. Est-ce que quand vous voyez ses membres, vous le soutenez? Vous en pensez quoi, docteur Jérôme Marty?
C'est difficile à dire. On a l'impression que, ce conseil est divisé en son sein, puisqu'on voit que certains défendent des positions et d'autres positions, mais après tout, ça, c'est la vie. Sauf que, concernant les masques, par exemple, on a bien vu que le professeur Jean-Laurent Casanova, qui est immunologiste, dans la dernière production du Conseil scientifique, vous savez qu'ils ont fait deux documents, un de 40 pages qui préside à l'organisation du déconfinement sur le plan général, un de 11 pages sur l'école. Celui de 40 pages, il a pris position en disant que pour tous les soignants au contact de la pathologie du Covid-19, tous les soignants devaient être fournis en masque FFP2. Du fait de la possible aérosolisation, c'est-à-dire de ces microparticules en suspension dans l'air qui nécessitent ce type de masque. Ça n'avait jamais été dit par d'autres. Donc, on voit bien qu'il y a des positions qui sont au sein même du conseil scientifique discordantes. Et puis ensuite, on a vu que le gouvernement et le chef de l'État ne suivaient pas toujours les positions de son propre conseil scientifique, puisque le déconfinement a été le 11 mai, manifestement, le conseil scientifique n'avait pas fourni la date. Et puis pour les écoles, l'ouverture des écoles, le conseil scientifique, c'est aujourd'hui, préconisait l'ouverture en septembre. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie un petit peu de cette communication erratique que l'on aura connue tout au long de la crise.
D'ailleurs, en parlant des écoles, une des annonces, je le disais, qui continue à faire le plus polémique, c'est bien celle de la réouverture progressive des crèches, donc des écoles, des collèges et des lycées. À l'heure actuelle, il y a un flou qui encadre encore ce sujet et beaucoup continuent d'y voir une simple mesure économique pour envoyer les salariés au travail. Vous avez une opinion sur ce sujet? Vous auriez préféré qu'on dise à tous les écoliers de reprendre le chemin de l'école en septembre?
Non, je crois que très honnêtement, pour les petits, on sait qu'ils sont… souvent asymptomatiques, on sait qu'ils sont maintenant, on a tendance à dire les
études. Il y a certains cas à Necker qui laissent penser qu'il y a de nouvelles formes de maladie.
On va en parler, mais dans l'immense majorité des cas, ils sont peu vecteurs. Les contamineurs seraient davantage les enseignants, donc dès l'instant où on donne des masques aux enseignants, il y a beaucoup moins de risques, mais évidemment, il faut mettre tout en œuvre pour que les mesures barrières soient respectées, c'est-à-dire pas plus de 12 à 15 enfants dans les classes. Les repas pris en classe, la capacité structurelle de l'école à faire que lorsque l'on amène son enfant à l'école, les mesures barrières sont aussi respectées pour les parents et quand on va le rechercher, pareil. Donc, c'est toute une organisation qui est à mettre en œuvre et en ce sens, on appelle, et on le fait depuis maintenant plusieurs jours, on appelle à ce que l'éducation nationale se repose aussi là sur la médecine de ville, qui peut les aider à mettre en place les marches en avant, les mesures barrières, etc. Puisqu'on sait que la médecine scolaire est très mal en point dans ce pays.
Vous le disiez il y a un instant, enfin, on parle de ces maladies, on va dire, un petit peu bizarres, parallèles, hein, les récentes alertes de l'hôpital Necker, entre autres, hein, au sujet d'enfants touchés par une défaillance cardiaque. On parle de maladies de Kawasaki, je crois. Oui, c'est oui, ça, oui. Qui sera en lien avec le virus. Est-ce qu'elles doivent nous faire redoubler de vigilance?
Alors, la maladie de Kawasaki, c'est une vascularite, c'est une maladie qui est connue, qui n'est pas très fréquente, mais qui est connue. Là, on a un surcroît, un surnombre, en quelque sorte, de jeunes patients qui présentent cette pathologie. Tout porte à croire que c'est une évolution de la maladie, c'est-à-dire quelque part une évolution secondaire de la pathologie. Ça serait des patients qui ont eu le Covid de façon asymptomatique ou peu symptomatique et qui à distance ont développé cette maladie. Ça ne serait pas une nouvelle forme du Covid, mais bien une évolution. Ce qui tendrait à vouloir dire à ce moment-là que le nombre de cas de syndrome de Kawasaki va s'effondrer en même temps que le nombre de cas de Covid va s'effondrer, puisque c'est une évolution pour certains patients qui ont des troubles immunologiques et qui peuvent développer ce type de maladie.
Alors, on parlait du vaccin qui demanderait beaucoup de temps selon vous. Il y en a un, encore lui, qui fait beaucoup parler puisqu'il a considéré que travailler sur un vaccin était un défi idiot. Je reviens donc bien sûr au docteur, au professeur Didier Raoult. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez? Parce que finalement, à lui seul, il a encore fait l'actualité cette semaine à la suite d'une interview qui a fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez confiance dans son traitement à l'hydroxychloroquine? J'imagine déjà à l'avance que vous n'allez pas me répondre positivement.
Non, mais parce que je peux pas. Parce que malheureusement.
Et pourquoi pourtant ces chiffres sont bons dans la région?
Ces chiffres sont bons, mais le problème, c'est que ces études ne relèvent pas de l'académisme habituel pour monter les études. Il n'y a pas de bras témoins, il n'y a pas de bras comparatifs, si vous voulez. Les cohortes sont faibles. Alors ensuite, il a testé énormément de monde et Marseille est certainement une des villes du monde où on a testé le plus de patients. Ça, on peut le saluer. Mais tant qu'on.
Alors, comment vous expliquez que les chiffres soient meilleurs que dans d'autres régions?
Comment j'explique que les chiffres soient? Mais je ne suis pas sûr d'abord. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais très honnêtement, je peux pas me positionner sur chaque point, mais là, j'ai pas vraiment d'éléments pour savoir si les chiffres sont réellement meilleurs que dans d'autres régions. Il y a, on le sait, une grosse propension à tester. Ils l'ont fait parce que l'IHU Marseille est extrêmement puissante et ils ont eu des milliers de tests et ils l'ont fait et c'est tant mieux. Ils ont testé, une thérapeutique qui était hydroxychloroquine plus azithromycine donné à des patients en début de pathologie. Lui a dit, on a des résultats, et le premier test porté sur 26 patients, dont 4 d'ailleurs ont été retirés ensuite, donc 22 patients, ce qui est une très petite cohorte. Il n'y avait pas de comparaison avec des patients qui auraient reçu un placebo, c'est-à-dire un médicament où il n'y a rien, si vous voulez, mais on va comparer si là aussi il y a des effets ou non. Et ça, en double aveugle, c'est-à-dire le médecin ne sachant pas ce qu'il donne au patient et le patient ne sachant pas ce qu'il reçoit, ça n'a pas été fait vraiment comme ça. C'est ce qu'on a pu reprocher. Ensuite, je ne vais pas, moi, juger la valeur du professeur Raoult, dont on sait qu'il a beaucoup publié, dont on connaît les travaux sur les mégavirus, sur la rickettsiose, etc. Donc, c'est un médecin qui est reconnu sur le plan international, mais tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous, on a été dans des positions extrêmement difficile comme médecin, puisque entre le fer et l'enclume, si vous voulez, entre d'un côté le professeur Raoult, de l'autre des professeurs parisiens avec une espèce de guerre d'ego, il faut bien dire ce qui est, entre un certain nombre de patients, des querelles d'école aussi.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des querelles aussi de labo, docteur Jérôme Marty? Parce qu'on parle beaucoup de querelles d'ego, mais beaucoup s'interrogent sur la transparence de toutes ces recherches menées par tous ces professeurs dont on découvre, excusez-moi, chaque jour finalement, qu'ils travaillent aussi pour des laboratoires concurrents.
C'est possible. Mais bien sûr. Mais non, mais attendez, c'est possible. Ce qui est sûr aussi, c'est que on a été pris nous parce que on demandait à avoir des éléments de preuve, parce que on ne voulait qu'une chose, c'est que le professeur Raoult ait raison, de façon à pouvoir dire à nos patients, on a un traitement. Ça, c'était très important. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait une autre étude qui soit faite. Ça a été l'étude Discovery.
Enfin, l'armée commande de l'hydroxychloroquine.
Très rapidement, je vous réponds, sauf qu'on s'est aperçu que cette étude ne prenait pas la même base que l'étude du professeur Raoult. C'est-à-dire que le professeur Raoult disait, il faut donner mon traitement en début d'affection. Et là, on donnait la chloroquine, l'hydroxychloroquine seule, sans l'azithromycine. et sur des formes graves de la pathologie en réanimation, alors même qu'il n'y a plus de charge virale à ce moment-là. Donc, on voit bien que cette étude ne pouvait pas nous amener à dire « oui, c'est bien ce que dit le professeur Raoult, non, ça ne marche pas ». Et on a été tout le temps dans ce doute-là. On a eu d'autres études qui sont arrivées ensuite, pareil, où on n'a pas respecté la même base. Donc, on a été dans une espèce de course totalement déraisonnée, et les patients ont vu leurs doutes se renforcer. Et nous, au milieu, on a essayé d'expliquer aux gens ce qui se passait, mais de façon très difficile. Alors que si on avait eu un peu plus de sagesse là-dedans, moi, je crois que le professeur Raoult avait émis une possibilité. Il aurait dû être aidé de ce côté-là. Il aurait dû, lui, de son côté, mettre un peu d'eau dans son vin et puis peut-être faire une étude qui respecte les codes académiques et puis qu'on en sorte, quoi. On n'en est toujours pas sorti.
Mais il a dit qu'il n'avait pas le temps pour cela. On va arriver bientôt, docteur Jérôme Marty, au terme de cette émission. Juste un mot, le professeur, donc Didier Raoult, semble confiant sur le fait que cela puisse être une maladie saisonnière. Vous y croyez, vous ?
J'ai pas d'éléments, malheureusement. J'ai pas d'éléments. Moi, je vois que dans l'hémisphère sud, il y a des pays où ça se développe. Donc j'ai pas d'éléments. Je doute beaucoup. Je crois que ce qu'il faut vraiment dire aux auditeurs, c'est que ils ne se relâchent pas. C'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas de vaccin. Il y a peu de taux d'immunité, 6 à 10 % dans la population. Ça veut dire que 90 à 94 % d'entre nous n'ont pas eu cette pathologie et sont susceptibles de l'avoir. Donc ça veut dire qu'il faut se protéger, tout protéger l'autre, garder les distances, porter un masque, réfléchir à tout ce que l'on fait, bien se laver les mains continuellement, on se touche le visage plus d'une fois par minute, et surtout, chose que l'on ne dit jamais, aérer les pièces, ouvrir les fenêtres, faire une circulation d'air de façon à faire sortir ces particules en suspension qui sont susceptibles d'exister. Aérer, aérer, aérer. En fait, Sam protège. Sam, ce prénom, vous protège. S, solution hydroalcoolique. A, aération des pièces. M, masque.
En parlant justement de contrôle, le tracing, vous en pensez quoi ?
J'en pense qu'il n'y a pas de recul par rapport à ça. Alors, c'est pareil que pour les traitements, hein, ça veut dire qu'on expérimente dans cette pathologie. J'en pense qu'il y a... On est dans la seule utilisation du tracing et ça va poser des problèmes sur la région parisienne. C'est tout à fait différent si vous comparez l'Ariège, par exemple, ou l'Ardèche ou la Lozère, à Paris. En Lozère, vous avez quelqu'un qui est contaminé, il va vous dire « j'ai rencontré telle et telle personne, je suis passé par tel endroit ». En général, il connaît toutes les personnes qu'il a rencontrées. À Paris, vous voyez bien que dans le métro, si vous êtes plus de 15 minutes entouré de gens avec une incapacité à respecter la distanciation, vous êtes dans l'incapacité aussi de dire « j'ai été entouré par telle ou telle personne ». Et eux sont aussi dans l'incapacité de dire qu'ils étaient près de vous, ils ne vous connaissent pas. Donc, ça va poser de gros problèmes. Et puis, surtout, on est dans une course contre la montre, vous avez 2 jours pour retrouver les sujets contacts. Parce qu'au-delà, ils deviennent eux aussi vecteurs du virus. Et donc, c'est plus 25 personnes qu'il vous faut retrouver, puisqu'on a dit que c'était 25 personnes en moyenne, mais c'est bien 50, 100, 200, 300. Donc, je crois que penser que ce contact tracing va permettre véritablement de stopper la diffusion me paraît extrêmement douteux. Je crois qu'il faut qu'on fasse plusieurs choses à la fois.
Docteur Jérôme Marty, on arrive bientôt, je le disais, donc au terme de cette émission. Dernière question, aujourd'hui, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités futures au niveau national ou même international ? Est-ce qu'il faut se préparer à vivre autrement ? Ça, on le sait, mais quelles seraient, selon vous, les priorités ?
Non, mais surtout, si on ne veut pas que ça se reproduise et si on ne veut pas revivre les erreurs que l'on a vécues et le manque et la pénurie que l'on a vécu, il faut arrêter d'avoir une gouvernance du soin qui est une gouvernance uniquement administrative et politique. Il faut arrêter que ce soit Bercy qui gouverne le soin, juste sur l'angle économique. Et il faut certainement donner plus de gestion du sanitaire à la fois aux patients et à la fois aux soignants. C'est-à-dire qu'il faut oublier peut-être que l'on ait un ministère de la Santé, mais qu'on ait un conseil du soin et que ce conseil du soin soit composé à la fois par un pôle soignant élu par la profession, un pôle patient élu par les patients et un pôle administratif relais de l'État. Il n'y a que comme ça. Si vous aviez eu des soignants et des patients aux manettes, aux côtés de l'administration, vous n'auriez pas eu de pénurie.
Vous êtes optimiste pour les prochains mois ?
Je suis optimiste si l'on sait tirer des leçons de la crise et que l'on sait reconstruire. On a besoin de reconstruire notre système sanitaire, c'est indubitable. Cette crise a montré tous ses trous, tous ses manques, toutes ses erreurs. Pour qu'on en tire les leçons et que l'on reconstruise véritablement. Ça, on peut être optimiste par rapport à ça, mais il faut vraiment qu'on tire les leçons.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, je rappelle, médecin généraliste qui exerce à Fronton, Haute-Garonne, également président du syndicat L'Union Française pour une médecine libre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, ainsi qu'à Micha Agar, ainsi qu'à Nicolas Philippi au digital, également Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Je vous rappelle que cette émission peut être vue en replay sur Facebook depuis la page officielle de Sud Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de nos programmes. Quant à moi, je vous donne donc un nouveau rendez-vous des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. D'ici là, on ne vous le dira jamais assez pour vous protéger, protéger les autres et aider les soignants. Comme le disait le docteur Jérôme Marty, encore 8 jours à rester chez soi. Merci, bonne semaine et bon dimanche à tous.